au chapitre Yudbet, au verset Vav. Vayavor Avram Baaretz. Avram traversa le pays, Ad Mekom Shechem, jusqu'au lieu de Shechem. Ad Elon Moré, jusqu'à la plaine de Moré. Vakenani Az Baaretz, le Cananéen, était à l'époque sur la terre. Donc il arrive, et ça, bon, ça peut être prouvé par d'autres textes, dans un lieu géographique qui est le centre géographique, géométrique du pays d'Israël. Mais ce qu'on avait commencé à se demander, pourquoi est-ce qu'il est écrit « Vayahavor Avram Baaretz » ? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'Avram a traversé le pays ? On avait expliqué que c'était pour nous dire qu'il ne s'est rien passé pendant son voyage, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez de ça ? Oui, exactement. Et il arrive à un lieu, comment, à quel endroit il arrive ? Décidez-vous.
Il y a écrit
Atchrem.
Ah,
c'est pas la même chose. Il arrive à l'emplacement de Shrem. Quand je me rends à Tel Aviv, je ne me rends pas à l'emplacement de Tel Aviv. Je me rends à Tel Aviv. Ça veut dire quoi, l'emplacement de Shrem? Ça veut dire que Shrem n'existait pas encore. D'accord? C'est-à-dire le lieu qui un jour sera Shrem. Quand est-ce que nous apprenons pour la première fois dans la Torah l'existence d'une ville, Shrem? Oui, c'est quand ça?
C'est à l'époque de Yaakov.
À l'époque de Yaakov, c'est-à-dire deux générations plus tard. Deux générations plus tard, quand même un bon bout de temps, quelque chose comme une centaine d'années, nous découvrons brusquement une ville. D'accord? Donc la ville a été fondée entre-temps. Justement, c'est la question que je pose. Pour l'instant, j'en suis à la question. Mais t'en fais pas, il y aura très bientôt la réponse, évidemment. Mais en tout cas, si la Torah, donc la Torah a jugé nécessaire de nous faire comprendre qu'au moment où Avraham arrive à cet endroit, la ville n'existe pas encore, mais qu'elle va bientôt exister. D'accord? Ma question est la suivante. Qui a fondé la ville de Shrem?
Shrem.
Alors, n'inventez pas n'importe quoi. Il faut des preuves. On va bientôt arriver à la preuve, mais pas tout de suite. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au verset Zayin? Quand il arrive à l'emplacement de Shrem, Vayera Hashem El Avram. Et Dieu apparut à Avram, Vayomer, pour lui dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Les Zaracha etel et haaretz hazot. C'est à ta descendance que je donne ce pays. C'est à ta descendance et pas? Soit pas à toi, soit pas à tes accompagnateurs. Il a pris avec lui une multitude de personnes et il lui dit, c'est à ta descendance que je donne cette terre. C'est-à-dire ni à toi, ni à tes accompagnateurs. Ça veut dire qu'en fait, c'est une remontrance qui est faite à Abraham d'avoir pensé faire coexister son projet initial avec le nouveau projet de Dieu. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça?
Ouais.
Bon. Qu'est-ce qui se passe? Vayiven sham misbeach l'Hashem anir'e elav. Il construisit là-bas un autel à Dieu qui lui était apparu. C'est quoi cette histoire? Dieu qui lui était apparu. Il fait un autel pour Dieu de toute manière. C'est quoi à Dieu qui lui est apparu? Qui lui est apparu dans cette révélation. C'est-à-dire que Abraham se soumet à la remontrance d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit non, c'est à ta descendance et pas aux accompagnateurs que je donne cette terre. D'accord? Qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Regardez au verset Chet. Vaya'atek misham ahara. Il se déplaça de là-bas vers la montagne. C'est-à-dire, Shrem est dans une plaine. Il va monter maintenant vers les montagnes de Samarie. D'accord? La Samarie, juste au sud, il monte. Vayatek Misham Ahara, Mikedem le Bet-El, à l'est de Bet-El. C'est-à-dire, il a fait quelque chose comme 40, 45 kilomètres. D'accord? Vayet Aholo, et il étendit sa tente. Ah bon? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
Étendit sa tente.
Hein?
Étendit sa tente.
Étendit sa tente. Donc, Vayet, c'est-à-dire, il l'a étendu, effectivement. Aholo, c'est-à-dire sa tente. Ce qui me... Oui? Alors, Aholo, c'est parce que c'est comme s'il fallait dire Ahola, sa tante à elle. Ça veut dire qu'en fait, il avait deux tantes, la sienne et celle de sa femme. Et qu'il a planté d'abord celle de sa femme avant la sienne. De là, on apprend le derrière. Si vous faites un café, alors vous faites d'abord le café à madame et après à vous-même. D'accord? Mais, donc, vayet haolo. Donc, ça veut dire combien de tantes il y a maintenant à côté de Bethel?
Deux.
Bizarre. Il était avec beaucoup de monde. Alors, on devrait dire il a attendu ses tantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il les a laissés? À Shreb. Donc, qui c'est qui a fondé la ville? Les accompagnateurs d'Abraham. Ça veut dire que à Shreb, c'est créé un centre abrahamique de personnes qui sont fidèles à Abraham. Mais qu'Abraham a laissé derrière lui, oui.
Mais ils ont voulu pas Abraham.
Peut-être. En tout cas, ça explique quelque chose d'intéressant, c'est que lorsque Yaakov rentre de l'exil, alors qu'il veut se rendre chez son père Yaakov qui est à Hevron, au lieu de prendre directement la route vers le sud, il remonte vers le nord pour Shrem. C'est-à-dire qu'il va chercher là-bas quelque chose. Il va chercher quelque chose à Shrem. Évidemment, il va chercher un mari pour Dina, pour fonder la 13e tribu. C'est-à-dire qu'il avait 12 garçons et une fille. Les 12 garçons vont fonder 12 tribus, mais il y a également un élément féminin dans la famille d'Abraham, dans la famille d'Yaakov, pour faire participer les nations et donc fonder la 13e tribu avec des goïms. Et pour ça, il va chercher le goï qui correspond à ce projet. Et donc, il va chercher à Shrem, chez les descendants, des accompagnateurs d'Abraham. D'accord? Vous dites quoi? Ça n'a pas réussi? Ça n'a pas été génial. Non. Génial, non, pas du tout. Mais en tout cas, ça explique la démarche de Yaakov. Il se rend à Shrem.
Il a le droit de faire ça?
Non, c'est interdit.
Elle va marier sa fille avec une qui n'est pas dans la chaîne.
Avec qui va la marier?
Il attend que ses enfants aient des enfants.
Donc, elle va se marier avec ses neveux? Bon, vous dites n'importe quoi, c'est pas grave. En tout cas, bon, oui. J'en sais rien. Quand on arrivera à l'histoire de Dina, on en parlera. Dina a quatre maris potentiels, d'après la Torah. Shimon, son frère, Esav, son oncle, Yov, le tzaddik, et Shrem, le méchant. D'accord? Donc il y a quatre manières de marier Dina, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord? Oui.
On a dit qu'il se déplace vers l'endroit de Shrem.
Oui, l'endroit qui n'était pas encore Shrem.
C'est ça, vers la pointe d'Elon Moré, c'est ça. Donc l'endroit de Shrem, c'est Elon Moré.
Oui, peut-être que dans Shrem, il y a un lieu qu'on appelle Elon Moré. C'est-à-dire, archéologiquement parlant, la Shrem de l'époque était sur un tel, et à côté de ça, il y a une plaine. Alors c'est peut-être, il va jusqu'à Shrem, jusqu'à la plaine de Moré. D'accord? Bon. Mais en tout cas, donc ça veut dire que maintenant, il se retrouve seul. On va découvrir d'ailleurs qu'il n'est pas vraiment seul. Par la suite, on découvrira qu'il est accompagné encore par Lot. Mais c'est pas écrit. D'accord? Et ça veut donc dire qu'il y a ici un changement d'optique de la part d'Abraham. Bon. Maintenant, je reviens ici au verset 7. Vayatek Misham Ahara. Donc c'était important de le savoir. D'accord? Vayatek Misham Ahara. Mikedem Levet El. Il se déplaça là-bas vers la montagne, à l'est de Beth El. Vayet aholo, et il étendit sa tente. Bethel miyam, Bethel était à l'ouest. Ve'ahai mikedem, et ahai à l'est. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi Ahai?
Ben, c'est un endroit qui s'appelle Ahai.
Oh, c'est
ouais. Oui. Ahai, ça veut dire la ruine. Un lieu appelé la ruine.
Ah, c'est.
Quoi?
C'est celui qui est passé après. La ville où on est passé après.
Après Yericho, oui. D'accord? Bon. Donc, il plante sa tente entre Bethel et Ahai. Va'yven sham misbeach l'Hashem, va'yikra b'shem Hashem. Il construit là-bas un autel pour Dieu et invoqua le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre Bethel et Ahai?
Hein?
Oui. Non, Shrem, il l'a quitté, il a été. Shrem est au nord, il va vers le sud, et il s'arrête entre Bethel et Ahai.
C'est Jérusalem.
Jérusalem entre Bethel et Haï? Jérusalem est au sud de Bethel.
Haï, c'est où pour avoir Bethel?
Ben, c'est à l'est. C'est ce qu'il y a écrit.
Hein?
C'est dans le Chebron, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a là-bas une montagne. Une montagne, c'est pas n'importe laquelle, c'est une montagne qu'on appelle Har Baal Hatzor. La montagne de Baal Hatzor. Cette montagne est la plus élevée de Samarie. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette montagne? Quand on est sur le sommet de la montagne, quand il fait clair, c'est-à-dire en général après la pluie, quand on ne fait pas de tioul parce qu'il y a de la boue, d'accord? Mais vous pouvez faire confiance au guide qui vous dit, s'il faisait clair aujourd'hui, alors on verrait. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Parce qu'en général, on fait un tioul quand il fait chaud, donc il y a de la poussière dans l'air, on voit pas très bien loin. Mais le guide vous dit, si c'était un temps clair, alors on verrait d'ici telle et telle chose. Qu'est-ce qu'on voit de l'appui de la montagne de Baal Hatzor? Ça dépend de quel côté vous vous tournez. À l'ouest, vous voyez la mer Méditerranée. Au nord, on peut voir, par temps clair, le Hermon. À l'est, on voit le désert d'Arabie, au-delà de la Jordanie. Et au sud, on voit le plateau du Negev. C'est-à-dire, c'est un endroit où on voit pratiquement tout Canaan, tout Araba. D'accord? On voit pratiquement tout le pays de Canaan. D'accord? Tout cet endroit-là. Har Baal Hatzor. Hatzor. Het Tzadik Vav Resh. D'accord? Bon. Pourquoi c'est important de le savoir? C'est-à-dire que c'est un endroit d'où on voit tout Eretz Israël. Pour l'instant, dans l'étude du texte, ça ne nous donne rien. Mais par la suite, on va comprendre que c'est très important qu'il soit arrivé à cet endroit-là, précisément. D'accord? Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam, shehakol yado. Et. Oui. Comment? Le plateau du Negev. Verset 19. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là pour aider. Qu'est-ce qui se passe?
Non, le désert, le Negev, je veux savoir c'était quoi à peu près.
Le Negev, c'est à peu près la région de Dimona.
C'est
ça. Dimona. Bon. Verset tête. Le mieux, c'est de vous poser des questions à moi. Ça me dérange moins. Bon. Verset tête. Vaïssa Avraham. Avraham voyagea, alors venasoa, allant, voyageant, hanegba, vers le sud. Où veut-il arriver?
À Jérusalem.
À Jérusalem? Alors, c'est ce que semble dire Rashi. Regardez dans Rashi, sur le verset tête. Dans la troisième ligne du Rashi, Vechol Masahav Anegba. Tous ces voyages vont vers le sud. La Lechet les Daroma chez l'Eretz Israël, parce qu'il veut aller dans le sud d'Eretz Israël. Vehi les Tsad Yerushalayim, qui est du côté de Jérusalem. Et donc, ça veut dire que Abraham veut arriver à Jérusalem. Est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Probablement pas. De plus, quand est-ce qu'il arrive à Jérusalem? Non, vous ne pouvez pas le savoir. Il arrivera 42 ans plus tard. Non, 52 ans plus tard. Oui, Akedat Yitzhak. D'accord? Abraham a 75 ans. L'Akedat Yitzhak se passe quand Yitzhak naît à l'âge de 100 ans d'Abraham à 37 ans. Donc 37 plus 25, ça vous donne 52. Donc ça va lui prendre 52 ans pour arriver à Jérusalem. Comment? 37 et 25, ça fait?
62.
Ça fait?
62.
302?
60.
62. Donc ça va lui, non? Il dit que ça fait 52. Ça se décide à la majorité, hein, tu sais. C'est 62? Il a raison. Donc voilà, puisqu'il y a un accord général, et que nous sommes dans un pays au régime démocratique, alors nous allons donc adopter l'opinion que c'est 62 ans. Donc ça lui prend énormément de temps pour arriver à Jérusalem. Or la Torah nous dit qu'il est déjà entre Bethel et Haï. C'est 20 kilomètres de Jérusalem. Et ça lui prend 62 ans pour y arriver. Il se passe quelque chose. Quoi? Non, il s'est passé quelque chose. Regardez le verset Yud. Alors ce que dit Rashi, il va du côté de Jérusalem. Il parle même du mont Moria. Maintenant, si vous demandiez à Abraham, pourquoi tu vas vers le sud? Je ne pense pas qu'il aurait répondu Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il y a au sud?
La mer.
La mer? L'Égypte. Quelle mer? L'Égypte. Donc il veut arriver en Égypte. Bien sûr qu'il veut arriver en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son boulot à Abraham? C'est de proclamer l'existence de Dieu. Il fait ça partout. Il fait ça quand il est à Ur-Kasdim, quand il est à Haran, quand il est à Shrem, quand il est entre Bethel et Haï. Il veut continuer vers le lieu le plus important de la civilisation humaine à l'époque, qui est l'Égypte. C'est évident, oui?
Oui, mais on vient de dire qu'à l'instant, il a appelé tous ses partisans. Il ne va pas aller chercher d'autres
Égyptiens. Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il n'est pas impossible qu'Abraham se dise les partisans qui viennent de Mésopotamie, à Kadosh Baruch Hu, il ne les veut pas. Peut-être que les Égyptiens, il les veut, premièrement. Deuxièmement, il est possible qu'Abraham n'a pas l'intention d'amener avec lui des gens d'Égypte, mais qu'il veut simplement aller convertir l'Égypte. D'accord? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu lui a dit « C'est à ta descendance que je donne cette terre ». D'accord? Il a reçu l'information. « Ma descendance va recevoir cette terre. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ben maintenant, il va se promener, il va continuer son travail en Égypte. D'accord? Donc c'est ça le projet d'Abraham. Alors, Venasso Anekba, il va donc vers l'Égypte. Oui?
On va peut-être chercher aussi une descendance.
Une descendance? On ne cherche pas une descendance, on fait une descendance.
Chercher quelqu'un avec qui il peut avoir une descendance?
Ben il a sa femme.
Elle ne peut pas avoir d'enfant à ce moment-là.
Bonne question. Effectivement, on va voir par la suite qu'il a trouvé là-bas une Égyptienne, comme par hasard. Mais enfin, ça c'est beaucoup plus loin. Bon, mais oui, elle avait des drôles de yeux, elle était hagarde, si on veut dire. Bon, et donc, ce qui se passe, l'Ashgacha s'en mêle. Il est obligé de descendre en Égypte pour que ce ne soit pas considéré comme une transgression de l'interdiction de la Torah, bien qu'il n'y ait pas encore la Torah, mais finalement... Abraham a intuitivement le sentiment qu'il doit aller en Égypte, et ça se passe comme ça. Pourquoi? Vayehi ra'av ba'aretz. Il y eut la famine sur la terre. Vayered Avram Mitzrayma lagursham. Et Avram descendit en Égypte pour y résider. Ki chaved ra'av ba'aretz. Parce que la famine était lourde dans la terre. Donc qu'est-ce qui était lourd? La famine et le verset. Parce que le verset dit deux fois la même chose. Le verset nous dit que il y avait la famine et qu'il est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine. C'est dit deux fois, il se répète. Oui, parce que ça choque le lecteur de la Torah qui se dit tiens, il est descendu en Égypte, c'est pas bien ça. Alors on dit non, il n'avait pas le choix. D'accord? Bien qu'en vérité, il aurait très bien pu le faire même sans la famine. Mais la famine l'amène obligatoirement en Égypte. Et la Torah nous dit simplement deux fois qu'il y avait la famine. Ça veut donc dire qu'il y avait deux famines.
Alors, de nourriture et d'autres choses, par exemple?
Exactement. Il y avait une famine matérielle, il y avait Ira-Abaret. Mais il y a une autre famine, la famine spirituelle. Où est-ce qu'elle est, cette famine spirituelle?
Il y a le monde de Torah.
Où est-ce qu'elle est? En Égypte. C'est l'Égypte qui est en famine. C'est-à-dire, il y a la famine en Canaan parce qu'il n'y a pas de quoi manger, et il y a la famine en Égypte parce qu'il n'y a pas de quoi se nourrir spirituellement. D'accord? Et donc, Abraham va continuer son travail. Bon. Celui-là, jusqu'à ça? Vayehi kacher ikriv lavo mitzrayma. Ce fut quand il fut proche d'entrer en Égypte. C'est quoi qu'il est proche d'entrer en Égypte? Ben, on voit qu'il y a du monde et la frontière est proche. D'accord? Vayomer el Sarah Ishto, il dit à Sarah, sa femme, Inena yadati, voilà que maintenant je sais, ki isha yefat mareat, que tu es une femme belle à voir. C'est-à-dire, à l'âge de 75 ans, il se rappelle de dire à sa femme, qui a 65 ans, tu sais, tu es belle. Ah bon? Et alors, jusqu'à présent, il n'avait pas pensé à lui dire? Non. Jusqu'à présent, ça n'avait pas d'importance par rapport à la stratégie d'Abraham. Là, il y a un danger. Le danger, c'est les Égyptiens. Maintenant, le problème, pourquoi la Torah nous raconte-t-elle que nos matriarches étaient belles? C'est dit de Sarah, de Rivka, de Rachel, c'est dit aussi de Yosef. Bon, ça explique si s'est passé l'épisode avec la femme de Poutifar, mais ça veut dire quoi être belle? Être belle, ça veut dire attirante. Donc, elle attire le monde. Qu'est-ce qui, en Sarah, est attirant? Alors, évidemment, il y a sa beauté physique, elle était très belle. Hein? C'est la pudeur qui est attirante?
Bah, à l'époque, je pense pas que c'était la plus belle femme en Égypte.
Hein?
Je pense qu'en Égypte, à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de ça, donc, un truc comme.
Ils n'avaient pas l'habitude de quoi?
De la pudeur.
J'en sais rien, qui te dit ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, qui est Sarah? Sarah, c'est là, c'est l'origine d'Israël. Or, Israël, c'est pas n'importe quoi. C'est un contenu d'énergie qui va transformer le monde entier. Donc, il est normal qu'à ce moment-là, oui, exactement, il y a une attirance pour captiver la matrice d'Israël. La matrice dans tous les termes, dans tous les sens du terme.
Il y a un potentiel de...
Exactement. Maintenant, ça vous explique quelque chose. Lorsque le pharaon de la sortie d'Égypte, enfin de l'esclavage, a décrété un décret scélérat, qu'est-ce qu'il a dit? Jetez tous les enfants mâles dans le fleuve et les filles, laissez-les en vie. Ah bon? Si les filles restent en vie, qu'est-ce qui va se passer avec elles? Elles vont être épousées par des Égyptiens. Les enfants seront quoi? Ils seront juifs du point de vue de la halakha, mais égyptiens du point de vue de l'identité. Ça veut donc dire que c'est l'Égypte qui va devenir le peuple élu. C'est-à-dire la tentation du pharaon, c'est pas simplement d'éliminer les Hébreux, mais il veut également renforcer sa prétention à être lui le fer de lance de l'histoire.
C'est
la jalousie. D'accord? Donc ce qui se passe, Sarah est belle et elle va arriver dans le pays qui est au sommet de la civilisation. C'est évident qu'on va essayer de s'emparer d'elle. Oui.
Et pourquoi, justement, si on dit que elle, c'est la mal, enfin, c'est que tout le monde était attiré par elle, pourquoi on ne dit pas que tout le monde était attiré par Abraham? Parce que soit lui aussi, c'est le père d'Israël. Sinon, c'est...
Oui, mais lui, il est le rival. C'est-à-dire, il faut le tuer. Pour remplacer Abraham, il faut tuer Abraham.
Ah, donc, Abraham, il est remplaçable, Sarah, elle ne l'est pas?
Non, Sarah, elle n'est pas remplaçable. C'est elle qui est à l'origine. Et donc, c'est elle qui peut être accaparée. Parce que le destin de l'histoire va se décider par les mâles, pas par les femelles. Donc, c'est le pharaon qui va essayer de la prendre. Donc, qu'est-ce que dit ici Abraham? Ve'aya ki yiru otach ha-mitzrim. Et ce sera lorsque les Égyptiens te verront, ve'ameru, qu'ils se diront, ishto zot. Celle-là, c'est sa femme. Ve'arguoti, ils me tueront. Ve'otach yahayu. Et toi, ils te laisseront en vie. Donc, Abraham prévoit ici deux malheurs possibles. Le premier malheur, c'est qu'Abraham soit tué. Le deuxième malheur, c'est que Sarah reste en vie. Quoi?
Quoi?
C'est un malheur que Sarah reste en vie. Ça veut dire que l'énergie d'Israël va être transmise à l'Égypte. Ah, donc c'est très grave. D'accord? Maintenant, remarquez une chose intéressante. Pourquoi tuer Abraham? Il suffit de prendre Sarah. Simplement, ça veut dire que pour les Égyptiens, on ne prend pas une femme mariée. On peut tuer le mari, ça oui, c'est moins grave que de prendre une femme mariée. Je parle ici du point de vue égyptien. Ils ont une demi-morale, un quart de morale, un 18e de morale.
Là, juste une question.
Oui.
Si jamais Abraham, il savait qu'il y aurait des problèmes entre nous en Égypte, pourquoi il y a en Égypte et pas ailleurs?
Parce que c'est en Égypte qu'il y a de quoi manger. Et c'est parce que c'est l'Égypte qui est affamée. Maintenant, il y a toute une stratégie chez Abraham. Il se dit, il y a un moyen de s'en tirer. Qu'est-ce qu'on va faire? Imrina Achotiat dit que tu es ma sœur.
Est-ce qu'il fait ça dans cet esprit du principe qu'il va abandonner la maison d'Israël au moment des Égyptiens?
Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que s'il dit, t'es ma sœur, il vous dira, c'est bon, c'est sa sœur. Elle n'est pas mariée, on n'a pas besoin de faire, on peut la prendre.
Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu dis?
J'ai pas
lu. Oui, voilà, donc c'est parce que t'as pas lu la suite. D'accord? Imrina Achotiat dit que tu es ma sœur. Les man yitavli ba'avourer, pour que ça aille bien pour moi, v'haïta nafshi biglaler, et que je reste en vie grâce à toi. Surprenant. Ça veut dire qu'Abraham est intéressé à sauver sa peau, et il dit à Sarah, écoute, il faut absolument que tu dises que tu es ma sœur, pour que je vive. À part ça, il y a un autre problème. C'est quoi, yitavli ba'avourer, que ça aille bien pour moi? Que dit Rashi? Dans le verset Yud Gimel, que dit Rashi? Yitnouli matanot. On me donnera des cadeaux. C'est-à-dire, Abraham dit, voilà, il y a deux raisons pour lesquelles ça vaut la peine que tu dises que tu es ma sœur. La première, c'est que je vais recevoir des cadeaux. Deuxièmement, comme ça, je vivrai. En supposant qu'Abraham soit un égoïste, la première chose qui doit l'intéresser, c'est d'abord de vivre. Accessoirement, des cadeaux. Mais là, Abraham semble avoir perdu la boule, c'est-à-dire il met l'échelle des valeurs à l'envers, il dit, je veux des cadeaux, et à part ça, je veux vivre. Ça, on a à vous dire qu'on n'a pas vraiment compris, n'est-ce pas? Bon. Alors, ça veut dire, si on pense que tu es ma femme, le seul moyen de se procurer toi, c'est quoi? De me tuer. Donc, ce que dit Abraham, ça ne vaut pas la peine de dire que tu es ma femme. Tu diras que tu es ma sœur, et alors on me donnera des cadeaux. Pourquoi faire? Pour convaincre le frère, c'est-à-dire qu'une femme à l'époque se mariait avec l'autorisation de son père ou de son frère, et donc si on pense que tu es, que je suis le frère, on va gagner du temps. Les gens donneront des cadeaux, ils ne me tueront pas simplement comme ça. C'est-à-dire, si ils se disent qu'il y a moyen de t'avoir par conviction, ils ne vont pas me tuer. Donc ils vont me donner des cadeaux et ça va te sauver. À part ça, ça va me sauver aussi. C'est-à-dire, la première préoccupation d'Abraham, c'est pour Sarah, et accessoirement, sa vie à lui. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'on a pu lire au début. D'accord? C'est-à-dire qu'Abraham pense qu'il va recevoir des cadeaux. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va se dire, bonjour, cher Abraham, voilà, je t'ai amené un cadeau. Quoi? Oh, ben, une obélisque. Ah oui? Mais ça de côté. D'ailleurs, ta sœur, elle est belle, hein, tu sais. Ah oui. Et puis après, le lendemain, arrive un autre. Et voilà, je t'ai amené un sphinx. Un sphinx, wow, il est pas mal. Mais tu sais, hier, il y en a un autre qui a amené une obélisque. Hein. Enfin bon, mets ça ici de côté. Bon, on va réfléchir. D'accord? Et puis après, arrive un sarcophage. Enfin, très des trucs, quoi. Donc, Abraham fait traîner des choses en longueur. Et c'est comme ça qu'il va se sauver, lui et sa femme. D'accord? Et ça, la stratégie proposée par Abraham. Oui. Il y a seulement un problème. Alors, une seconde. Il y a un seul personnage en Égypte qui n'a pas besoin de l'autorisation du frère pour épouser une femme. C'est le pharaon. C'est pas difficile de ne pas rencontrer le pharaon. Combien y a de pharaons en Égypte? Il y en a un seul. Alors, il suffit de ne pas rencontrer le pharaon. Comment? C'était grand l'Égypte, évidemment. Alors il s'est passé quelque chose. Regardez. Vaï kevo Avram Mitzrayma. Ce fut lorsqu'Avram entra en Égypte. Vaïrou a Mitzri met Sarai. Et les Égyptiens ont vu Sarah. N'est-ce pas? Ça prouve que ça sert absolument à rien que vous ayez des livres devant les yeux. Ah, il y a écrit Taïcha. Ils ont vu la femme. J'ai dit Sarai. Oui, c'est-à-dire, logiquement, si on parle d'Abraham, on doit parler de Sarah. Or, ce que les Égyptiens voient en Sarah, qu'est-ce qu'ils voient? La femme. Ils ne voient pas son identité, sa personne. Donc elle n'a pas de nom, elle est la femme. Qui a failli méode, ils ont vu qu'elle était très belle. Qui c'est les Égyptiens qui ont vu qu'elle était très belle?
Ça vient de parents?
Pas du tout. Où est-ce que ça se passe? À la douane. Les douaniers. Les douaniers qui sont là-bas, c'est les Égyptiens, tout simple. On ne va pas mettre là-bas des grands seigneurs. Et mais, alors qu'est-ce qu'ils disent? Elle est très belle. Vaïro, ta saré pharao. Et alors, les princes de Pharaon l'ont vu. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas?
Accueillir un roi.
Non, pas du tout. Les douaniers se sont dit, ça, il faut montrer au patron. Ils ont appelé, donc, les princes. Le patron, il faut absolument que vous voyez ça.
Ça ressemble à une cause un peu bizarre, parce qu'à l'époque, ils ne peuvent pas appeler à venir voir qu'est-ce qu'il y a à la frontière. Ils sont à la frontière.
Oui, mais attention, il y a le boss, il y a l'officier qui dirige le poste. D'accord? Et ce qui va se passer, va y aller louer au tard, elle part haut. Et ils l'ont loué comme digne de Pharaon. Ils se sont dit, celle-là, ça c'est que pour le Pharaon. Batouka, Raïcha, Bet Paro. Et donc, elle a été prise dans la maison du Pharaon. C'est-à-dire que, il s'est passé un enchaînement de choses qu'Abraham n'avait pas prévu. C'est qu'elle est tellement belle que ça va immédiatement arriver chez le Pharaon. Oui.
Mais c'est pas parce que c'est la mère d'Israël. Elle n'est pas perçue en tant que mère d'Israël. C'est au moins une femme qui est belle.
Oui, mais on comprend que cette beauté cache en fait quelque chose.
Elle est suspecte.
Il ne savait même pas qu'est-ce qui l'émeut. D'accord? Allez, regardez le verset Tetzain, où le Avram hétiv ba'avoura, et il a donné des bonnes choses à Abraham en sa faveur. C'est-à-dire, quand il dit Yitavli ba'avourer, je recevrai des cadeaux, effectivement, c'est prouvé par ce verset. Le pharaon donne des cadeaux à Abraham. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de son autorisation, mais il va quand même à son beau-frère offrir des cadeaux. Il lui a pas donné une obélisque, il lui a donné deux obélisques et trois sphinx. Et deux pyramides. D'accord? Bon. Vaïlo, et alors, qu'est-ce qu'il a reçu, Abraham? Là, ici, il y a la liste de ce qu'il reçoit. Son uvakar vahamorim, des ovins, des bovins et des ânes. Va avadim ushfachot, des esclaves et des servantes. Va atonot et des ânes. Ugmalim et des chameaux. Moi, j'aurais pas fait la liste comme ça.
Genre les animaux d'à côté.
Alors, non, c'est-à-dire ce qui fait la différence, ce qui est important, c'est pas si c'est un homme ou un animal pour eux, si c'est masculin ou féminin. Regarde ce qu'il dit. Hamorim, c'est des ânes. Avadim, des esclaves. Tous les deux sont mâles. Shfachot, c'est féminin. Atonot, les ânes, c'est féminin. Donc, pour l'Égyptien, la personnalité n'a aucune importance. Ce qui est important, quelle est la force qu'il y a là? Est-ce que c'est une force masculine ou une force féminine? Les gmalim, c'est pour voyager. C'est en dehors de, c'est pas pour le service permanent.
Donc pour les Égyptiens, un âne, c'est plus une force qu'une servante.
Disons comme ça, c'est plus intéressant parce que c'est plus fort. Un âne, c'est plus fort qu'une servante. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que dans le mode de pensée égyptien, on l'avait déjà vu quand ils ont vu la femme, eh bien, ils ne voient que la femme. Quand ils voient des animaux ou des hommes, ils voient la force. D'accord? C'est ça qu'ils voient. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, avant de continuer, revenons un peu en arrière au verset Yud Gimel. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, oui, verset Yud Gimel. Imrina Achotiat. Nous avons traduit, approximativement avant, nous avons dit, dis donc que tu es ma femme, n'est-ce pas? Que tu es ma sœur, oui. Dis donc que tu es ma sœur, c'est vrai. Mais il y a ici un mot qui n'existe pas en hébreu que j'ai ajouté en français. C'est le mot que. Que. En hébreu, on devrait dire Imrina she achotiat, ki achotiat, asher achotiat. Il y a ici un mot qui manque. C'est comme s'il lui disait, dis donc, tu es ma sœur. C'est-à-dire, c'est Sarah qui doit dire, tu es ma sœur. À qui elle doit dire, tu es ma sœur? À la première égyptienne qu'elle rencontre?
À Hagar.
Hein? Au douanier. Le douanier, tu es ma sœur?
On va mal le prendre.
Et Lot?
Quoi, Lot? Lot, c'est pas sa sœur.
À Hagar. Ah, c'est qui, d'où Lot dans tout ça, là?
Hein?
Ça va être là, Lot.
Et alors? Pour l'instant, on n'en parle pas.
Je pense qu'elle dit ça à
Agar. Agar?
À la fille de Pharaon.
Peut-être qu'elle doit lui dire ça, mais elle n'est pas encore au courant qu'il va y avoir là-bas la fille du Pharaon.
C'est quelqu'un.
Hein?
Quelqu'un avec eux?
Non.
À la première Pharaon.
Non, c'est très simple. C'est en fait un code. Abraham donne une explication secrète à Sarah pour lui expliquer ce qu'il vient de faire en Égypte. La vraie raison pour laquelle il vient en Égypte. Et le mot de code, c'est Achotiat, tu es ma sœur. Cette expression Achotiat apparaît en tout et pour tout dans toute la Bible, deux fois seulement. La première, c'est où? C'est là, oui. Et la deuxième? Non.
C'est dans le Nard.
Dans le Nard, oui, c'est vrai.
Dans les
Nevi'im, pas dans les Nevi'im. Dans les Ketuvim, c'est très bien. Voilà, voilà, vous rapprochez. Hein? Ah, non, le Megat Esther n'est pas écrit. Non plus. La Gada, c'est pas dans le Tanakh. Hein? Hein? Non, non, pas dans Tehilim. Comment? Dans Michelet. Ouais, tout de suite il a trouvé. Dans Michelet, il y a écrit Et mort la Chochma, Achoti At. Dit à la sagesse, tu es ma sœur. Donc, Achotiat représente ici la sagesse. Il vient expliquer à Sarah, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes venus récolter la sagesse de l'Égypte. Effectivement, le prophète nous dit, Ve'avadeti et chokhmat Mitzrayim bayomahu. Je perdrai la sagesse d'Égypte en ce jour. C'est-à-dire que l'Égypte est porteuse d'une sagesse et qu'Abraham vient la chercher. Alors maintenant, pour mieux comprendre ça, revenons un peu en arrière dans le chapitre Bet. Oui, dans le chapitre Bet, au verset... Oui, je sais bien. Au verset Yud. Regardez dans le Bereshit, au chapitre Bet, au verset Yud. Venahar yotze me'eden. Un fleuve sortait de l'Éden. Le'ashkot et Tagan pour irriguer le jardin. U'misham yipared. Et de là, il se séparera. Ve'haya le'arba rachim et deviendra quatre têtes. Alors d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jardin d'Éden sort quelque chose et que ça devient, par la suite, quatre fleuves, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Vehaya, c'est un futur. C'est-à-dire, c'est pas au moment de la création du monde, c'est au moment, ça annonce l'histoire. Dans l'histoire, le fleuve qui sort de l'Éden va devenir quatre fleuves. C'est quoi des fleuves? Les fleuves, c'est ce qui fonde des civilisations. Toute grande civilisation se fait au départ à côté d'un fleuve. Alors, c'est quoi les quatre fleuves? Shem Ha'echad Pishon. Le premier est Pishon. C'est quoi Pishon? C'est le Nil. Disent les Chachamim. C'est-à-dire le premier des quatre fleuves, des quatre grandes civilisations, c'est l'Égypte. Et ça correspond à quatre midot différentes que disent les Kabbalistes, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut. Comment? Et là, c'est la Chochma. Donc ce que dit, en fait, ça veut dire que dans l'histoire, il y a eu un éclatement de l'unité. L'unité dans le Éden, c'est un fleuve. Dans l'histoire, c'est devenu quatre fleuves. Il y a un éclatement, une dispersion des valeurs. La valeur qui est tombée en Égypte, c'est, dans le Pishon, c'est la Chochma. C'est-à-dire, c'est le fleuve du Gan Eden qu'Abraham vient chercher. Exactement. Donc, c'est ce qu'il dit. Imrina, hein, il faut que tu dises, Achotiat, tu es ma sœur. C'est le mot qui signifie la sagesse. Et donc, Abraham dit, voilà, c'est la raison pour laquelle on est là. Comment est-ce qu'on va récolter ça? Sous forme de cadeaux. Les cadeaux que vont nous donner les Égyptiens sont porteurs de la sagesse de l'Égypte. D'accord? Vous allez aller dans un musée, dans les antiquités égyptiennes, vous le voyez tout de suite. Que les découvertes qui ont été faites dans l'archéologie de l'Égypte, eh bien, c'est tout ce qui est, ça porte des valeurs énormes d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire, d'ailleurs, à quoi il a servi l'or qui est sorti d'Égypte? Hein? Au Vaudor ou au Mishkan? Décidez-vous. Et le Vaudor, alors, comment ils l'ont fait?
Avec les bijoux des femmes.
Avec l'or aussi. C'est-à-dire, l'or qui sort d'Égypte est porteur de deux sortes de valeurs, des valeurs positives et des négatives. Donc, il faut faire un tri. Le tri de ces valeurs se fait dans le campement des enfants d'Israël. D'accord? Une partie va au Vaudor, une partie est récupérée pour amener la Shrina sur terre. Donc, c'est pas n'importe quoi, l'or de l'Égypte. Verset Yudzai. Vaïnaga Hachem et Paro, Negaim Gedolim Vet Beto. Et Dieu amena des plaies sur Pharaon, des plaies grandes, ainsi que pour sa maison, Aldevar Sarai Eshet Avram, à cause de Sarai, femme d'Avram. Et à cause de Sarai, pas simplement à cause de la femme d'Avram. Ça, oui.
Juste comment on dit qu'Avram, il est cherché à sa jeunesse, c'est vrai, il allait la prendre et l'enlever, en
fait, oui. Non, il va la prendre pour la réunir à toutes les valeurs de toutes les nations.
Il avait
fait déjà un certain travail en Haran. D'accord? Maintenant, il continue par l'Égypte. Vaïkra, verset Yutred. Vaïkra, Pharaon, le Avram. Pharaon appela Avram. Vaïomer, Mazot, Asitali. Qu'est-ce que c'est que tu m'as fait là? Lama, loigat, tali, kishtechai. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Lama, Amarta, Achoti. Pourquoi tu as dit c'est ma sœur? Vaïka, Chotali, Leisha. Je l'ai pris pour moi comme femme. Qu'est-ce que répond Avram? Il ne répond rien. Simplement. Pourquoi il ne répond rien? Parce que c'est évident. Ça ne mérite pas de réponse. Ve'ata ine ishtecha karvaler, et présentement, prends ta femme et va-t'en. Va'etzav ala paro anashim, Pharaon ordonna d'amener avec lui des hommes. Va'ishalechu oto ve'et ishto ve'et kol asher lo. Ils l'ont renvoyé, lui, ils l'ont raccompagné plus précisément, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Donc ça, c'est la sortie d'Égypte, d'Avraham. Avraham sort d'Égypte. Oui?
Si Sarah, il est d'accord, à la base, il se tuait quand il était prêt de méditer son mari. Pourquoi ce moment-là, il a fait ça, son mari, il l'a pas tué pour prendre une nouvelle femme?
Pourquoi? Qui? Pourquoi? Pourquoi ce pharaon n'a pas tué?
Il a tué Avraham pour prendre sa femme, parce que finalement, maintenant, il sait que c'est son mari.
Ah oui, mais elle était chez le pharaon. Et le pharaon a souffert à cause de ça. Donc maintenant, il comprend qu'Avraham doit être son allié. Maintenant, si on va selon le Midrash, il a donné également sa fille Agar comme servante chez Abraham, c'est-à-dire qu'il se dit, si je ne vais pas être moi son beau-frère, alors que ce soit lui mon gendre. D'accord? C'est-à-dire il y a ici une participation du pharaon à l'événement de la création d'Israël. C'est pour ça qu'il dit « Vayishalecho oto », il les a accompagnés. Les chalers, c'est-à-dire accompagnés, comme dans Béchalar paro et dans la paracha de Béchalar que nous allons lire. Ce Shabbat, vous retrouvez la coïncidence extraordinaire. Il y a de l'Ashgar là-dedans. Bon. Vayal. Quoi? Parce que c'est, il a très bien compris l'état des Égyptiens. C'est-à-dire, les Égyptiens étaient tellement barbares que c'était énorme, enfin, tellement débauchés que c'était évident qu'il fallait cacher l'identité de Sarah. Chapitre Yud Gimel, verset Aleph. Vayal Avram Imitsaim. Avram monta d'Égypte. Où lui, Veishto, et sa femme, Vechol Asherlo, et tout ce qu'il possédait. Brusquement, Velot Immo, et Lot avec lui. Un Egba vers le sud. Jusqu'à présent, la Torah n'a rien dit. C'est-à-dire, elle nous dit que Avraham continue sa route depuis Shrem, avec Sarah, il plante sa tente. Brusquement, on découvre que Lot n'a pas abandonné Avraham. C'est-à-dire que Lot n'a pas participé à la fondation de la ville de Shrem, il reste autour, dans l'entourage d'Abraham. D'accord? Vers le sud. Vers Avraham, Kaved Meod. Et Avraham était très lourd. D'accord? Mais là, c'est pas une métaphore. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de bagages. D'accord? Bamikne, dans le bétail. Bakesef, Uvazahav, d'argent et d'or. Qu'est-ce qui manque? Les hommes. C'est évident que, mais si on a du bétail, c'est qu'on a des bergers pour s'en occuper. Donc il y a une sorte d'évidence qu'il y a un groupe humain qui monte d'Égypte et qui est associé à Abraham. Très bizarre. Ça veut dire, vous rappelez, quand il avait amené un groupe humain de Haran, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas très content, il les a laissés de côté. Mais là, il y en a un autre groupe. Peut-être que ce groupe-là, Akadosh Baruch Hu accepte. Oui?
Peut-être que cette fois-ci, c'est pas Abraham qui a dit au groupe de venir.
Oui, j'ai dit peut-être qu'au contraire, c'est bien, c'est l'Ashgaha qui a voulu qu'il vienne avec moi. D'accord? Vayelech le Masahav, Minegev et Bethel. Il revient sur ses étapes, depuis le sud jusqu'à Bethel, Adamakom, Asher Ayasham, Aolo, Batechila, Ben Bethel, Uvenaï, jusqu'à l'endroit où il avait mis sa, où il y avait là-bas sa tente au départ, entre Bethel et Aï. El mekom ha-mizbeach asher Hashem bereshona, à l'endroit de l'autel qu'il avait fait la première fois. Vaikra sham Hashem, sham Avram b'shem Hashem, et Avram invoqua là-bas le nom de Dieu. Alors où est-ce qu'il va, Avram? Où est-ce qu'il arrive?
Là où il y a l'autel la première fois.
C'est-à-dire? Hein? Arba al-Chatzor, entre Bethel et Haï. Il revient à la case départ. D'accord? Bon, jusque-là, tout est clair. Quelque chose n'est pas clair. Vegam le Lot aolech et Avram ayatson vakar boalim. Et Lot aussi, qui marchait avec Avram, il y avait des ovins, des bovins et des tentes. C'est-à-dire que Lot est riche comme Avram. D'où lui vient sa richesse?
Avram, il a soit Avram il a partagé entre lui, soit Lot il a fait quelque chose en Égypte.
Qu'est-ce qu'il a fait en Égypte?
Il est venu à Avram qui veut se marier avec Sarah.
Ben non, Lot il est le frère de Sarah.
Exactement, lui il est vraiment le frère de Sarah. C'est-à-dire quand on essaye de convaincre Avram, est-ce que je peux par hasard épouser ta sœur? La même question est posée à Lot. C'est-à-dire que Lot, parce qu'il marche avec Avram, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il est riche. C'est-à-dire, Avram et Lot sont tous les deux des deux côtés de Sarah. Et les négociations commencent. Alors, il y en a un qui amène, donc, une pyramide à Avram et une pyramide à Lot. D'accord? Un sarcophage et un autre. D'accord? C'est-à-dire, en fait, c'est doublé. Donc, il est normal que Lot soit aussi riche qu'Avram. Et lui aussi, il a avec lui un groupe humain. Oui. Possible. C'est pas dit. D'accord? Mais en tout cas, ça explique ce qu'il fait là-bas et ce qui va se passer. Velo nasa otam ha'aretz la'shevet yachdav. Or, le terrain n'était pas suffisant pour qu'ils résident ensemble. Ki yaya rechusham rav. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Velo yachlu la'shevet yachdav. Ils ne pouvaient pas résider ensemble. Vous ne pouvez pas se mettre d'accord. C'est la même chose. Oui, il n'y a pas écrit qu'est-ce que ça fait Zav, c'est vrai. Bon, mais d'où vient alors l'argent d'Abraham? Il l'a vendu. Donc, verset Zayin. Vaï rive, il y eut dispute. Ben roé mikne Avram ou ben roé mikne Lot. Entre les bergers du bétail d'Avram et les bergers du bétail de Lot. Va Kenani va périser à Shebaharès, le Cananéen et le Périséen étaient installés à l'époque sur la terre. Donc il y a un conflit territorial. Maintenant, comment ça se passe? Alors, essayons de voir un peu la situation. Vous avez ici deux populations qui sont liées par des liens de famille, qui toutes les deux ont la foi dans le Dieu d'Abraham et qui revendiquent le même territoire. D'accord? Je reviens sur les trois éléments. Ce sont deux populations qui sont en rapport de famille, qui ont la même foi, ils croient en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, et ils veulent le même territoire. D'accord? Vous comprenez à quoi la Torah a-t-elle pu penser quand elle nous a écrit ce genre de situation? D'accord? Maintenant, la confrontation est très grave parce que, avec les autres nations, ce sont tous des idolâtres. Avram est le porteur de la foi. Mais là, il y a un monothéisme rival, avec revendication territoriale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, bon flanc? D'accord? D'accord? Il y a ici, en fait, il y a trois possibilités logiques. La première, c'est de se faire la guerre. C'est le vainqueur qui gagne. D'accord? La deuxième, c'est d'aller au tribunal. Et donc, au niveau du droit, c'est le droit qui va décider qui a raison. La troisième possibilité, c'est de faire un compromis territorial. Tu prends la moitié, moi je prends l'autre moitié, on ne se dispute pas. D'accord? Et là, il va falloir qu'on découvre qu'est-ce qu'Abraham veut faire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il se passe. Ça va être assez compliqué. D'accord? Oui? Ah, ça veut dire qu'il y a un débat autour de la possession de Canaan. C'est-à-dire, d'après Rashi nous dit que les bergers d'Abraham ne broutait pas chez les Cananéens, parce que la terre n'était pas encore donnée à Abraham. Et les bergers de Lot broutaient chez les Cananéens pour deux raisons. D'abord parce qu'ils disaient que ça a été promis à Abraham, et à part ça, comme Abraham n'a pas d'héritier, c'est nous les héritiers. D'accord ? Donc il y a un rapport, avec, il y a ici un problème de conflit territorial. Oui ? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de descendance.
Oui, donc le débat est arrivé, c'est ni Abraham, ni Lot.
Attends une seconde. À qui il donne la terre ?
Descendant d'Abraham.
Et, mais pas ?
Pas à Abraham.
Pas à Abraham.
Donc,
mais pas non plus à Abraham.
Ouais.
Donc Abraham, en fait, n'est pas vraiment le propriétaire de la terre. Ni Lot.
Donc ils se disputent tous les deux pour un truc
qui n'existe pas encore, d'accord. C'est ça, oui. D'accord. Oui. Bon. Vous avez entendu parler d'un mouvement israélien appelé Shalom Arshav. La paix maintenant. C'est en fait c'est une copie d'un mouvement américain Peace Now qui a été fondé lors de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Et disons, l'expression a été reprise par le mouvement israélien Shalom Arshav. Un des chefs de ce mouvement, aujourd'hui il n'est plus de ce monde, c'était un certain Louba Eliav. Louba Eliav. Non, Louba Eliav est un des pères fondateurs du Parti travailliste en Israël. Un jour, il arrive à la tête d'une manifestation face au quartier juif de Hebron, avec des manifestants du mouvement Shalom Arshav. Et en montrant du doigt les maisons des Juifs qui habitent à Hebron, il dit la chose suivante. Ils se prétendent les continuateurs d'Abraham. Mais Abraham a dit à Lot, séparons-nous pour ne pas nous disputer. Donc ils vont contre l'enseignement d'Abraham. Argument intéressant, n'est-ce pas ?
Il est fort.
Oui. D'accord, d'accord. C'est ça qu'il faut mettre sur table. D'accord. On va voir ce que dit la Torah de ça. D'abord, comment est-ce qu'on dit une dispute en hébreu ? Riv, n'est-ce pas ? Comment vous savez ça ? Regarde dans le verset Zayin, Vayehi, Riv. Il y a eu une dispute. Mais qu'est-ce que dit Abraham à Lot ? Vayomer Abraham et Lot. Abraham dit à Lot, Anati Miriva, Veni ou Venira, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, mais il n'emploie pas le mot Riv. Il emploie le mot hein, Meriva, n'est-ce pas ? Hein ?
Comme la voiture.
Comme ?
C'est une marque de voiture.
Et une marque de voiture, Meriva ?
C'est une blague.
Non. T'es sûr ? Je pensais qu'en fait, il voulait mérivauder. Mais en tout cas, oui. Ah, c'est pas du tout la même chose. Il y a une différence énorme entre Rive et Meriva. Ce sont deux formes de conflits tout à fait différentes. Rive, c'est, on voit cette expression employée dans la Torah à chaque fois qu'il est question d'un tribunal. C'est-à-dire, par exemple, Ve'amedu shene ha'anashim asher lahem ariv lifnei Hashem. Les deux hommes qui sont l'objet du litige se tiendront devant Dieu, c'est-à-dire devant le juge. Donc le mot employé par la Torah pour parler d'un tribunal, c'est Rive. C'est un litige qui se règle au tribunal. Maintenant, Meriva, c'est une dispute qui se règle à l'amiable en dehors du tribunal, par un compromis. Alors que donc la Torah témoigne que c'était un rive, Abraham fait comme si c'était une Meriva. Hein ? Oui, et ça va avoir des conséquences, parce qu'il va proposer un compromis. Maintenant, pour bien comprendre ça, regardez une petite seconde dans le chapitre Yudret, au verset Yudret. Chapitre Yudret, au verset Yudret. Chapitre Yudret, au verset Yudret. Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ou pas ? Bon. Non, toi, t'as pas trouvé. Le verset Yutret dans Yutret. Yutret, Yutret.
Tu t'envoies de la page à gauche.
C'est incroyable, incroyable. Ah, t'as trouvé. Ouf. Ve'Avraham hayo yeh legoy gadol ve'atsum. Or Avraham deviendra une nation grande et puissante. Ve'divrei chubo kol goyei haaretz, et par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ki yeda'ativ, parce que je l'ai connu. C'est Dieu qui parle. Leman asher yetzaveh et banav et beto acharav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui. Ve'shameru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. La sot tzedaka ou mishpat, qui est de faire la charité et la justice. La charité et la justice, c'est incompatible. Soit on fait la charité, soit on fait la justice. L'objet d'Abraham, c'est de faire l'unité entre les deux. Maintenant, quelle est la tendance naturelle d'Abraham ? La charité ou la justice ? La charité. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? La justice. Son épreuve, c'est ça. Est-ce qu'il sera capable de faire la justice ? Or, il va se révéler comme choisissant la tzedaka, la charité. Donc, c'est ce que dit ici la Torah. Vayomer Avram el Lot. Avram dit à Lot, Al nati meriva beni uvenecha, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Uven roa yuven roecha, entre mes bergers et tes bergers. Ki anashim achim anachnu, parce que nous sommes des hommes frères. C'est-à-dire des proches parents. Ce qui veut donc dire que nous allons nous assassiner. C'est-à-dire, s'il y a rivalité entre frères, ça finit par un assassinat. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se partager le pays en deux. D'accord ? Comment il va le faire ? Ben, nous verrons tout ça la prochaine fois. Shalom.